كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. وبعد، ما زلنا في فصل في الكرب والهم والحزن. Sommes toujours dans le chapitre des paroles à prononcer lors de la difficulté, de l'affliction et de la tristesse. Et nous avons vu le hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam, lors de difficultés, disait: لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. في الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه dans lequel le prophète عليه الصلاة والسلام زي يا حي يا قيم رحمتك أستغيث. في الحديث أبي هريرة dans lequel il y a une faiblesse. Ensuite, le hadith de Abi Bakr radiallahu anhu: Allahumma rahmataka arju falatakilni ila nafsi tarfata'in wa aslih li sha'ni kulla la ilaha illa ant. Et nous entrons dans le hadith de Asma bint Umays. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي رواية أنها تقول 7 مرات، خرجهما أبو داود. حسنه الألباني رحمه الله. سنو أسماء بنت عميس رضي الله عنها، le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم lui dit: bien le dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: ne t'enseignerai-je point des paroles que tu formulerais en cas d'affliction ou durant l'affliction? Allah, Allah est mon Seigneur, je ne lui attribue aucun associé. في هذا الحديث نلاحظ كما ذكرناه مرارا أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم وفي تشويق الناس إلى الخير وإلى حفظ الدعوات المباركة. Dans ce hadith, comme nous l'avons cité à plusieurs reprises, on observe l'excellent comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la noble pédagogie qu'il utilisait dans l'enseignement et dans la transmission des connaissances. Ici, il lui fait aimer ce qu'il va lui transmettre. Il lui fait espérer la connaissance de ce qu'il va lui transmettre comme invocation. Et ces invocations sont à dire lors de Al-Karb, ou Al-Karb Ashidda. Comme nous l'avons déjà dit, Al-Karb c'est toute difficulté, ce qui vient déranger la tranquillité de ton cœur. Et dans cela, on voit la perfection du conseil et du conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ô combien il était motivé quant à la guider des croyants. Quelle est cette invocation à dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit de dire Allahu, donc une première fois. Puis une deuxième fois, Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. une première fois Allahu, ça c'est le mubtada. Ensuite Allahu, une deuxième fois hadha litta'kid, c'est pour appuyer. C'est pour appuyer le premier, la première, le premier mot. Allahu Rabbi. Fi dhalika tamkin lil-ittija'. Na'am, et dans cela, en répétant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela s'ancre dans le cœur du croyant. Ainsi, il se dirige complètement, exclusivement et totalement vers Allah subhanahu wa ta'ala, et son cœur n'est point troublé par le fait de se diriger vers autre que lui subhanahu wa ta'ala. Et en cela repose la guérison du cœur, le fait de se diriger exclusivement vers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc en ayant répété et appuyé cette parole-là, le fait de se diriger uniquement vers Allah Azza wa Jal s'est ancré dans le cœur du serviteur, au point où nul autre que lui ne peut occuper de place dans son cœur. En prononçant ces paroles, ou plutôt en ayant cet état du cœur, ou plutôt en ayant prononcé ces paroles, l'état du cœur suit. Donc, il y a un lien direct entre les mouvements de la langue et l'état du cœur du serviteur. Et Rabbi, c'est le khabar. La ushriku bihi shay'a. Cela également. Ma'ana Allahu Rabbi. Comme cela nous a été cité dans le Coran. Wa ana rabbukum fa'budu. وكما قوله كما في قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم. Donc ici on nous cite le nom Allah ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. On nous cite également Rabbi. نعم, donc on nous cite الألوهية et العبودية. Et il y a un lien direct entre les deux. دلالة الالتزام. Le fait qu'Allah عز وجل soit le seul Seigneur, le seul Créateur, le Maître des cieux et de la terre, Naam, nous appelle à l'adorer lui seul d'un culte exclusif. C'est pour cela qu'Allah, dans plusieurs versets du Coran, nous demande, Yani nous cite la reconnaissance dans l'Ouloubiya, pour nous appeler à l'unicité dans l'Ouloubiya, comme dans le verset Ya Yuhannas, U'budu Rabbakum, où vous les gens, adorez votre Seigneur. Et comme dans l'autre verset, wa ana rabbukum fa'budun, et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. Si Allah subhanahu wa ta'ala est notre Seigneur, c'est le ma'budul haq, c'est la seule divinité qui mérite d'être adorée. Et ici, tu cites les deux choses afin que ton cœur se dirige exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc du fait qu'Allah Azza wa Jal soit ton Seigneur, c'est le seul auquel tu t'adresses pour dissiper l'ensemble de tes soucis. La ushriku bihi shay'a. Après avoir affirmé qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le seul Seigneur, donc le seul à mériter entièrement l'adoration, tu proclames le fait qu'il est loin de toute association, de tout polythéisme, et d'avoir un égal ou un associé. Ici, tu remarques que dans cette invocation, le prophète alayhi salatu wassalam a uni entre al-ithbat et al-nafi, comme c'est la règle du tawhid. Le prophète alayhi salatu wassalam a cité une partie affirmative et a conclu par une partie négative. Car le tawhid, le monothéisme pur, ne se concrétise que ainsi. Il faut une partie négative qui vient renier le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah, puis une partie affirmative qui vient affirmer, donner l'exclusivité à Allah Azza wa Jalla dans cette chose. Quant à l'affirmation simple, elle n'empêche pas le polythéisme, l'association dans cette chose. Quant à la négation totale ou absolue, elle amène au néant. Donc pour concrétiser le tawhid, il faut une partie négative et une partie affirmative, comme dans la parole du monothéisme, par excellence, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Et ici, la ushriku bihi shay'a. Yani shay'an, c'est, ça amène la généralité. Donc on renie le polythéisme et l'association dans le culte d'Allah subhanahu wa ta'ala avec tout autre que lui. Que ce soit un prophète envoyé, que ce soit un ange rapproché, que ce soit une pierre, que ce soit un ange. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa la yarda li'ibadi mada » Al-kufr, na'am. Et il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Puis il nous appelle à la reconnaissance. Na'am. Wa shay'an idha nakira fi siyaq an-nafi tufid al-umum. Shay'an, c'est un mot qui est indéfini. Il est cité ici suite à une négation. Ça nous indique donc la généralité. La généralité. Dans une autre version, il faut répéter cela ou bien il faut dire cela à 7 reprises. Et cette deuxième version est dans le recueil de Abu Daoud, elle est faible. La deuxième version est dans le recueil de Abu Daoud et elle comporte une faiblesse. Non. Encore une fois, on voit dans ce hadith que pour dissiper les soucis et toute affliction, il nous faut évoquer Allah tabaraka wa ta'ala, revenir vers lui et diriger son cœur exclusivement vers Allah tabaraka wa ta'ala. Ici, tu vois que le prophète alayhi salatu wa salam accorde de l'importance à l'enseignement des du'as. Le prophète alayhi salatu wa salam accorde de l'importance à l'enseignement et à la mémorisation et à la prononciation des invocations des adhkars. Na'am. Et celui qui prononce l'adhkar, al-nabawiyya, avec leur compréhension, il concrétisera sans aucun doute le tawhid. Car l'ensemble des invocations du prophète alayhi salatu wa salam renferme cela. Aussi dans ce hadith, tu vois que le prophète alayhi salatu wa salam enseigne, yani transmet l'ilm même aux femmes. Yani al-mar'a khuliqat li'ibadati Allah tabaraka wa ta'ala ayda. La femme, elle doit savoir que tout comme l'homme, elle a été créée pour la même sagesse, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa al-awamir wa al-nawahi al-aslu fiha al-umum. Na'am. Yani les ordres, les interdits et ceux, yani les textes de manière plus générale s'adressent à l'ensemble, que ce soit les hommes ou que ce soit les djinns, que ce soit les garçons ou les filles, les personnes âgées ou yani les adolescents. Le Coran s'adresse à l'ensemble sauf lorsqu'il y a une preuve qui fait sortir une catégorie de cette généralité. Il fait sortir une catégorie de cette généralité. Naam. Alors. Wa an Sa'd ibn Abi Waqas. Waqas, ici j'ai. Radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, da'watu dhinnun idh-da'a biha. وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له خرجه الترمذي وفي رواية إني لا أعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه كلمة أخي يونس عليه السلام. Le hadith suivant est le hadith de Sa'd ibn Abi Waqas. Il nous dit, radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation de Dhinnun. Na'am. Dhu wa sahibu shay. Wa nun ismun min asma il hout. Al-Samak. Donc, Dhunnun, An-Nun, c'est un des noms du poisson. Na'am. Donc, en d'autres termes, Sahibu Hadashi. Et cela, ici, fait référence à Yunus ibn Matta, le messager d'Allah, alayhi salam, dont l'histoire a été citée dans plusieurs endroits du Coran. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation de Dhunnun formula lorsqu'il fut dans le ventre de la baleine était. Naam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation que Dhunnun formula lorsqu'il fut dans le ventre de la baleine était La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors de toi, exempté sois-tu, j'étais vraiment du nombre des injustes. Jamais un musulman ne formule cette invocation en quelque occasion sans qu'Allah ne l'exauce. Dans le hadith ici, Rajulun Muslim. Naam, Rajulun Muslim. Lesa, un homme musulman. Wahada li taghrib. Ça comprend également les femmes. Fi shay'in qat. Ça nous amène la généralité. À quelque occasion. Naam, quelle que soit la situation, quel que soit le besoin, quelle que soit la lourdeur de la difficulté. Sans que le résultat ne soit ce qui est cité ici, illa stajab Allahu la, sans qu'Allah ne l'exauce. Donc, min asbab istijabati du'a, at-tawassul bi hadhihi da'awat. Donc, parmi les causes d'acceptation de l'invocation près d'Allah, le fait de l'invoquer par ses paroles, par at-tawhid, na'am, puis at-tanzih, puis al-i'tiraf bi dha'f wa an-naqs. Ces trois points-là. At-tawhid, qu'on trouve dans la ilaha illa ant. At-tanzih, le fait de dire qu'Allah Azza wa Jalla est exempté de tout défaut, de toute imperfection, de tout associé et de tout égal. On trouve cela dans Subhanak. Puis al-i'tiraf bi an-naqs wa dha'f. On trouve cela dans Inni kuntu min al-zalimin. Naam. Yunus alayhi salam, connaissez tous son histoire. وظنون الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يونس عليه السلام était يعني dans son peuple il les appelait au tawhid, il les appelait à l'obéissance d'Allah سبحانه وتعالى. Et il s'est mis en colère, a quitté son peuple et a emprunté la mer. Et dans ce voyage, ils ont tiré au sort, ou plutôt ils ont, comment est-ce qu'on dit, Qura'a. Non? La courte paille. À la kulli hal, allez tirer au sort, cette parole semble pas adéquate à notre religion. Mais je vais, si vous avez un autre mot, vous me le dites, Inch'Allah, et je vais vérifier ce que c'est permis de dire ainsi. Quoi qu'il en soit, et Ani, afin de ne pas, donc il y ait une brèche sur le bateau, et afin que l'ensemble, et Ani, des membres ne coule pas, ils ont décidé de choisir une personne qui allait sauter du bateau. Naam. Et à plusieurs reprises, c'est tombé sur qui? Sur Yunus, alayhi salam. Fa ulqiya fil bahr. Il a donc été jeté à la mer. Fa waqa'a fi dhulumatin thalath. Il était dans trois ténèbres. Comme Allah dit dans le Coran, fi dhulumat, dans les ténèbres. Les savants ont dit, fi dhulumatil layl, dans les ténèbres de la nuit. Fi zulmat al-bahr, dans les ténèbres de la mer, wa fi zulmat batn al-hut, et dans les ténèbres du ventre de la baleine. Donc dans une très grande difficulté. Wa ma'a kulli dhalik lam yamut bi hifdhillah tabaraka wa ta'ala. Malgré tout cela, il n'est pas mort de par la préservation et la protection qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordé. فَكَانَ فِي كَرْبٍ وَشِدَّةٍ عَظِيمٍ. Il était donc dans une grande difficulté. فَمَا كَانَ مَفْزَعُهُ. Vers quelle chose il s'est dirigé? Vers quelle chose il a recherché le secours? التوحيد. فدائما وأبدا مفزع الموحد مفزع المؤمن التوحيد. Donc, quelle que soit la situation, vers quoi se sauve et recherche le secours le croyant, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il taja'a ila Allah azza wa jal iltija'an tamma. Donc il s'est dirigé totalement vers Allah tabaraka wa ta'ala. En disant la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin.
Le gars qui est garé la voiture de côté là, ça jeune.
S'il y a des gens qui sont garés du côté de la mosquée, du trottoir de la mosquée, on vous demande de déplacer votre voiture car ça gêne la circulation. Donc Yunus alayhi salam a dit la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Kan yuraddiduha, il répétait cela. Donc, dans cette grande difficulté, il a cité avec sa langue ce qui habitait son cœur. Dans la difficulté, tu cites ce qui habite ton cœur. Et celui qui accorde la plus grande importance au tawhid, Allah Azza wa Jal lui facilite ses paroles au moment où il en a le plus besoin. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Au moment de mourir, dans la tombe, sont les moments les plus difficiles. Naam, sont les moments les plus difficiles. Bah Allah Azza wa Jalla raffermit le croyant avec la parole de vérité. Cette parole, comme on trouve dans le tafsir, c'est la ilaha illallah. Et une fa'ida, dans Surat Maryam, on nous parle des trois moments les plus difficiles de la personne. Lorsqu'il sort du ventre de sa mère, lorsqu'il meurt, et lors de la résurrection. Maintenant, ces trois moments, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a accordé la paix. À qui? Wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'athu hayya. Naam, on a cité cela pour Yahya alayhi salam, puis par la suite pour Isa alayhi salam. Naam. Yunus alayhi salam répétait ses paroles. Il n'y avait ni lumière, ni de quoi respirer, ni anis, ni bonne compagnie, si ce n'est qu'il a cherché cette compagnie auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il était dans les profondeurs de la mer, mais son cœur était dirigé au-dessus des sept cieux, au-dessus des sept terres, au-dessus de la mer, au-dessus des sept cieux également. Et cette parole comprend ce dont nous devons être dotés en cas de difficulté. Trois choses. Je répète, kalimatu tawhid wa tahqiquha, la parole du tawhid et sa concrétisation. Deuxièmement, subhanak tanzihullahu anin naqais wal uyub wal mathil. Troisièmement, inni kuntu min adh-dhalimin, al-i'tiraf bit taqsir wal dhanb, le fait de reconnaître que nous sommes faibles et que nous avons des péchés. Ces trois points sont appelés asbab ou zawal shada'it, les causes de la dissipation de la difficulté. Quant à celui qui ne reconnaît pas sa faiblesse et qu'il est sujet à l'erreur, hada min asbab al-khudlan wal-iyadu billah. C'est une cause pour qu'Allah t'abandonne et te laisse à ta propre charge. وَإِذَا وُكِلْتَ إِلَى نَفْسِكَ هَلَكْتَ. Et sans aucun doute, si tu abandonnes à ta propre personne, na'am, tu vas périr. وَلَعِيَذُ بِاللَّهِ. Ici, le shir, al-sharih, c'est une quatrième chose, il dit al-ubudiyya. Al-ubudiyya, l'état de servitude. Na'am, et le fait d'être un adorateur. D'où est-ce qu'on tire cela? Min hal Yunus, de son état. Naam, on tire cela de son état et de son humiliation et du fait d'invoquer Allah Azza wa Jal et de le supplier. Wa ashara ila dhalik Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fil fawaid. Ibn al-Qayyim a cité ces quatre points dans Al-Fawaid rahimahullahu ta'ala. Quelle fut la finalité de cette affaire? Fastajabunala. La suite du verset, Fastajabunala. Nous l'avons donc exaucé. Est-ce qu'on nous cite l'histoire de Yunus alayhi salam comme cela, ou bien c'est pour que nous tirions des leçons? Pour que nous tirions des leçons de l'histoire de Yunus alayhi salam. C'est pour ça qu'à la suite de cela, Allah Azza wa Jalla nous dit également كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. Donc le croyant, s'il est à l'image de Yunus alayhi salam dans la difficulté, il obtiendra une part du secours d'Allah Azza wa Jalla dans la difficulté. Naam. Donc si tu réunis ces points-là dans la difficulté, attends-toi à recevoir le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. حديث dans lequel l'imam al-Tirmidhi رحمه الله تعالى. Et lorsque tu fais cette invocation, tu dois comprendre ce que tu prononces. وفي رواية إني لأعلم كلمة. Dans une autre version du hadith, je connais une parole. Je connais une parole. On comprend de cela une faïda pour ceux qui étudient la langue arabe, que al-kalima fi shara, tout la cou ala al-kalam, ala al-jumla al-mufida, la ala al-jumla al-mufradat. Ainsi, une faïda pour ceux qui étudient la langue arabe, c'est que le mot al-kalima, lorsque tu l'étudies dans les cours d'arabe, on t'apprend qu'al-kalima, quelle est sa définition? Lafzun lahu ma'ana, c'est un mot qui a un sens. Al-kalima dans le din, quand on voit ce mot, c'est pas ça le sens. Al-kalima dans le din, c'est la phrase. Tu dis un tel alqa kalimatan, il a fait une kalima. Ça veut dire qu'il a fait une conférence entière. Na'am, ou bien la khutbah, une kalima, ou bien ceci, une kalima. Khayrul kalima, la ilaha illallah. Par exemple, alors qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs mots. Le hadith suivant. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وحزنه وأبدله مكانه فرجا خرجه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيح الحديث صحيح. Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun serviteur n'est touché par une tristesse et dit cette invocation sans qu'Allah ne dissipe son tracas et sa tristesse et ne les change par une joie. Par une joie faraha, ou par un secours et une délivrance faraja. Donc selon le mot qui est attribué à cette version. Ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur et de ta servante. Mon toupet est dans ta main. Inexorable pour moi est ton jugement, et juste est ton décret. Je t'implore par chacun de tes noms, par lesquels tu t'es nommé, que tu as révélé dans ton livre, enseigné à l'une de tes créatures, ou préservé dans ta connaissance de l'invisible, de faire du Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la dissipation de ma tristesse et la délivrance de mon angoisse. نعم هذا الحديث علاج للأحزان. Ce hadith fait partie des remèdes pour la tristesse, pour l'affliction, pour la difficulté et les maladies du cœur. الألم, la douleur, الذي يتعلق بالقلب, يذهب طمأنينة القلب وراحته. La douleur qui vient toucher le cœur du croyant enlève sa sérénité, sa quiétude et sa tranquillité. Il lui faut donc savoir quel est le remède à cette maladie. Quel est le remède à cette maladie? Que ce soit les choses rattachées à son futur, comme al-ham, ou des choses rattachées à son passé, comme al-huzn, ou des choses rattachées à son présent, comme al-ghum. Et contre tout cela, il y a des remèdes. Contre tout cela, il y a des remèdes que l'on trouve dans le Coran et la Sunna. Et le cœur ne serait trouvé quiétude, tranquillité et bonheur si ce n'est dans l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, ala bi dhikrillahi tatma'innu bihi al-qulub. Naam. N'est-ce pas avec l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaise ou se tranquillise? Ce remède, cette invocation, si tu la médites, tu verras qu'il y a dhikrullah, il y a l'évocation d'Allah, il y a al-imanu bih, la croyance en lui, il y a husnu tawajjuh wa tawakkul ilayh, il y a le fait de parfaitement se diriger vers lui et abandonner son affaire auprès de lui. Il y a également al-istislam li amri, le fait de se soumettre à sa volonté, à son ordre. Il y a husn tawassul ilayhi bi asma bi dhikri asma'ihi wa sifatihi. Il y a aussi le fait de citer avant sa demande et de l'évoquer et de lui demander par l'intermédiaire de quoi? De ses noms et de ses attributs, ce qu'on appelle at-tawassul. Il y a également dans cette invocation le fait d'accorder la plus grande importance au Coran. Donc voici ce que l'on trouve dans cette invocation. Et on va l'apprendre et la lire en détail. Et avant d'oublier, je fus questionné, est-ce que la femme qui invoque Allah Azza wa Jal doit utiliser les mêmes mots que le prophète alayhi salatu wassalam, ou utiliser ces mots-là mais au féminin? Elle ne va pas dire, est-ce qu'elle doit dire par exemple Allahumma inni abduka, je suis ton serviteur, ou bien elle doit dire Allahumma inni amatuka, je suis ta servante? Naam, j'ai questionné chez Arafat et il m'a dit qu'elle doit mettre au féminin. Naam. Donc c'est pour cette invocation et pour les invocations passées. Naam. Donc premièrement, Allahumma, ce qui signifie Ya Allah. Inni abduk, je suis ton serviteur. Et la femme dira Inni amatuk. Bada bil-i'tiraf bil-ubudiyya wa annahum mamlukun لله عز وجل تحت أمره وتسخيره. Donc premièrement, tu commences par affirmer le fait que tu sois le serviteur et le servant d'Allah tabaraka wa ta'ala, que tu reconnais sa divinité et toi tu te reconnais en tant que servant, que tu es sa propriété, sa créature, et que tu vis sous son commandement et sa volonté subhanahu wa ta'ala. Puis tu dis wabnu abdik, donc tu es son serviteur, fils de son serviteur, donc ton père également avec cette place devant Allah Azza wa Jal. Quelle était sa place? C'était également un serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que ton arrière-grand-père, et ainsi jusqu'à Adam alayhi salam. Puis tu dis wabnu amatik, al-ama c'est le féminin de abd. Donc ensuite tu passes à ta mère et tu dis que c'était une servante. Naam. Pareil pour ta grand-mère, et cela jusqu'à Hawa. Naam. Tous ces gens-là sont les servants d'Allah tabaraka wa ta'ala, ces créatures, et ils vivent sous son décret, sous sa volonté. C'est lui qui les a créés, c'est lui qui nous a créés et eux avec, c'est lui qui nous donne notre subsistance et qui leur donnait la leur, et toutes les composantes de ce dont nous avons besoin pour vivre. Tout cela nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois qu'on cite al-Rububiyya, il ne faut pas vous arrêter à là. Mais il faut savoir que il faut comprendre que cette seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou cette seigneurie d'Allah azza wa jal, demande de notre part la soumission, l'adoration, la sincérité dans Al-Ibada, et également quoi? Al-Ta'a, l'obéissance, la soumission devant les ordres d'Allah Azza wa Jalla, la sincérité. Puis on nous dit Nasiyati biyadik. Al-Nasiya, c'est ça. Al-Nasiya, c'est cette partie-là que je montre. C'est Muqaddimatul Ra's. Al-Nasiya, c'est Muqaddimatul Ra's. En français, ils ont traduit par le toupet. Nasiyati بيدك أي أنا تحت أمرك وتصرفك. Que signifie cette parole? Ça signifie يا الله, je suis soumis à ton décret, je vis selon ton commandement. حياتي ومماتي كل ذلك بيدك. Ma vie, ma mort, ma subsistance, ma réussite, tout ce qui me concerne, c'est entre tes mains. Je suis ton serviteur, je vis selon ce que tu décides, selon ce que tu ordonnes, selon ce que tu décrètes. Quand je suis malade, ou plutôt quand je suis en bonne santé, c'est grâce à toi. Si je suis guidé, c'est grâce à toi. Et ainsi de suite. Tout ce qui me touche, quand je bouge, quand je suis immobile, tout ce qui m'arrive, vient de toi, subhanak. Et il n'y a rien que je puisse entreprendre, ni accomplir, ni réussir, sans que cela ne vienne de toi, tabaraka wa ta'ala. Donc, nasiyati biyadik, ma'adhin fiya hukmuk. Exonérable, inexorable pour moi est ton jugement, et juste est ton décret. Tayyib, kullu hukmin qawaita, na'am, fahuwa ma'adhin aynafir. Que signifie cette parole? Inéluctable est pour moi ton jugement. Tout ce que tu as décrété dans le passé est amené à se réaliser, et personne ne pourra l'éviter, ni le repousser, ni le changer. Voici le sens de Marvin Fiya Hukmuk. C'est-à-dire que tout ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété dans le passé se réalisera. Se réalisera. الحكم ينقسم الى قسمين. Le jugement d'Allah Azza wa Jalla est de deux sortes. Il y a ce qu'on appelle le hukmu al-kawni, le jugement universel, et il y a ce qu'on appelle le hukmu al-shar'i al-qadari, le jugement religieux. Le jugement universel, c'est tout ce qu'Allah a décrété. Tout ce qu'Allah a décrété. Tout ce qui est inscrit dans al-lawh al-mahfouz, les tablettes préservées. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a créé la plume, il lui a dit "Uktub", tout ce qui sera jusqu'à yawm al-qiyamah. Tout cela se réalise et se réalisera. Al-hukm al-kawni, il est inéluctable, on ne peut pas le changer, on ne peut pas le repousser. Na'am, wala lahdatan wahida, ni même un court instant. Et ça englobe tout ce qu'Allah aime et n'aime pas. Puis il y a ce qu'on appelle al-hukm al-shar'i, le jugement religieux. Le jugement religieux. Donc le premier c'est le hukm al-kawni al-qadari, et le deuxième c'est le hukm al-shar'i al-dini. Al-hukm al-shar'i al-dini. Le jugement religieux, Allah Azza wa Jalla l'a légiféré, il nous l'a ordonné. Puis il nous a laissé le libre arbitre. Celui qui le fait se verra récompensé, biljumla. Et celui qui le délaisse méritera un châtiment, biljumla. Puis le serviteur dit, adlun fiya qada'uk. Ton jugement, ou bien juste est ton décret. Juste est ton décret. Il ne renferme aucune injustice. قال الله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد وقال ولا يظلم ربك احدا وقال في الحديث القدسي يا ابن ادم اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. الله nous dit dans le Coran sous la traduction des sens, et ton Seigneur n'opprime pas les serviteurs. Dans l'autre verset, et ton Seigneur n'opprime personne. Et dans le Hadith Qudsi, ô fils de Adam, je me suis interdit à moi-même l'injustice, alors ne vous opprimez pas les uns les autres. Donc Allah Azza wa Jalla, tout ce qu'il décrète, c'est juste. Et subhanallah, ce simple point, celui qui le médite, dissipera ses tristesses. Tu as une épreuve, tu es touché par une chose qui a un rapport avec le passé. Et tu te souviens et tu as présent dans ton cœur que tout ce qu'Allah a décrété, c'est juste. Et qu'Allah n'est jamais injuste. Khalas. Naam. Khalas. Ce point-là va dissiper ta tristesse. Parce que tu sais qu'Allah Azza wa Jalla est juste. Tu n'as pas été touché par une injustice. Naam. Ton cœur se tranquillisera ainsi. Puis, après cette muqaddima, après cela, tu dis As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Je te demande par l'ensemble des noms que tu possèdes. Allah nous dit en Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartient les plus beaux noms. Invoquez-le donc avec. فالاسم فالاسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى. Ça a exclu autre que le nom d'Allah. Tu demandes à Allah par ses noms, à lui, pas par les noms d'autrui. هذا أسألك أي أناديك بكل اسم ولك. هذا توسل بأسماء الله عز وجل. Ici, tu demandes à Allah par l'ensemble des noms qu'il possède. أسألك بكل اسم ولك. Puis, on a divisé les noms. Les noms d'Allah Azza wa Jal sont comme ce qui suit. Sammayta bihi nafsak. Premièrement, ou plutôt, yani par les noms par lesquels tu t'es nommé. Puis, il a divisé ces noms. Premièrement, aw anzaltahu fi kitabik, que tu as révélé dans ton livre. Quel est ce livre? Al-Qur'an. Lorsqu'on parle du livre, en général, c'est le Qur'an, sauf s'il y a une qarina. Le Qur'an est rempli de noms et d'attributs d'Allah Azza wa Jal. نعم الحمد لله رب العالمين إسي رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعم à la fin de sourate al-Hashr, le rassemblement, ou plutôt avant cela dans ayat al-Kursi, il y a beaucoup de noms. À la fin de sourate al-Hashr, il y a une suite de noms, et dans le Coran il y a beaucoup de noms et d'attributs dans sourate Qul huwa Allahu Ahad, et ainsi de suite. Dans ayat al-Kursi il y en a 5. Dans l'Ikhlas, dans le Fatiha, na'am, il y en a environ, à la fin de Surat al-Hashr, environ 17. Wahakada. Donc ça, c'est les noms qui sont venus dans le Coran. Deuxième catégorie, أو علمتهو أحداً من خلقك. Donc des noms que tu as enseignés à l'une de tes créatures. Par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme dans le Hadith al-Shafa'a, le Hadith de l'intercession, connu sous le nom de l'intercession. De l'intercession. فَيُعَلِّمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ مَا لَا أُحْسِنُهُ الْآنِ. Les noms d'Allah Azza wa Jal ne sont pas restreints par un nombre précis que nous connaissons. C'est-à-dire tous les noms qu'il y a dans le Coran et la Sunna sont des noms d'Allah Azza wa Jal. mais ils ne sont pas restreints à cela. Il y en a d'autres que nous ignorons. Parmi ceux-là, ce que le prophète alayhi salatu wassalam va recevoir d'Allah azza wa jal le jour du jugement et par lesquels il va l'invoquer. Il nous dit qu'Allah azza wa jal va lui enseigner des élages et des manières de faire ces élages qu'il ignore actuellement. Qu'il ignore actuellement. C'est-à-dire qu'il va les connaître que yawm al-qiyam. Et ça, c'est une des plus grandes preuves qui démontre que les noms d'Allah azza wa jal, qui démontre cette règle chez Ahl Sunnah, que Asma'ullah ghayru mahsuratin bi'adadin mu'ayyan. Les noms d'Allah azza wa jal ne sont pas restreints à un nombre précis. C'est-à-dire que nous connaissons, nous, les créatures. Donc sachez que dans le hadith, inna lillahi tis'atan wa tis'in asman, certes Allah a 99 noms, men ahsaha dakhala al-jannah, celui qui les connaît, entrera au paradis, c'est-à-dire celui qui les mémorise, les comprend et l'adore avec, entrera au paradis. Ça ne veut pas dire qu'Allah a que 99 noms. Mais la particularité de ces 99 noms est que celui qui les connaît par cœur entrera au paradis. Il y a une différence entre celui qui dit « J'ai 50 euros pour faire des sadaqat » et dire « Il a que 50 euros ». N'est-ce pas ? Celui qui dit « J'ai 50 euros pour faire des sadaqat », est-ce que ça veut dire qu'il a que 50 euros ? Non, ça veut dire que la particularité de 150 euros, c'est que c'est prévu, yani c'est pour faire des sadaqat. Mais peut-être qu'il a 1000 euros. Wadah ? Ben, Allah Azza wa Jal a 99 noms, dont la particularité est ce qui a été cité dans ce hadith. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a que 99 noms ? Non. Est-ce que c'est wadah ? La troisième catégorie de noms, أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Ou préservé dans ta connaissance de l'invisible. Naam. Famina al-asma allati hiya lillah ma lam yutli'hu Allah subhanahu wa ta'ala 'ala 'abdin min 'ibadihi wa la malakan min malaikatihi. Donc parmi ces noms, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a ce qu'Allah azza wa jal n'a pas enseigné à l'une de ses créatures, ni un prophète envoyé, ni un ange. كل ذلك توسل. Tout cela, na'am, a été cité pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la demande? Na'am, tout ce qu'on a cité ici, c'était du tawassul. C'est-à-dire ce que tu cites avant ta demande. Et la demande est أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Voici la demande. C'est de faire du Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la dissipation de ma tristesse et la délivrance de mon angoisse. وفي رواية القرآن العظيم. En apparence, il y a une autre version où il y a l'ajout de Al-Azim. Ay Allahumma ij'al Al-Qur'an rabi'an. Rabi'an. Wa ladhatan wa sururan fi qalbi. Rabi', c'est une saison, c'est le printemps. Cet printemps a pour particularité plusieurs choses et je ne vais pas vous faire un cours. Na'am. De science de la vie de la terre, mais au printemps, vous savez tous qu'il y a yani, la pousse des cultures, et qu'auparavant, il y avait quoi? C'est quoi la saison avant le printemps? Hein? L'hiver ou l'automne? Vous divergez? L'hiver? L'automne? Moi, j'ai appris comme ça, printemps, été, automne, hiver. Naam, c'est tartib haqiqi ou pas? À la kulli hal, durant cette saison, tout le monde témoigne de la verdure. Et ça, c'est min asbab inshirah al-sadr. Parmi les causes de l'élargissement de la poitrine, du bonheur, de la joie, c'est il y a el-manadir, il y a les paysages, les beaux paysages. Sahih ? Il y a même des gens qui voyagent au bout du monde pour regarder ces paysages. Alors que le Qur'an bayna aydina, le Qur'an est là, devant toi, dans tes mains. Et celui qui lit le Coran, qui médite le Coran, qui applique le Coran, Allah Azza wa Jal mettra Al-Rabi' dans son cœur. Ce que tu vois durant le printemps, et ce qui procure cette joie aux gens, ben l'état de ton cœur sera semblable ou plutôt meilleur. Est-ce que vous avez compris le lien entre le printemps et cette dua? Tayyib. Donc, tout comme dans cette saison, il y a la verdure, il y a la joie et les beaux paysages, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la joie dans ton cœur, cette joie qui va dissiper toute difficulté et toute tristesse. Et dans ça, il y a une grande leçon. C'est quoi? C'est que qulubul mu'minin mu'allaqatun bil Qur'an al-Karim, kalamillahi azza wa jalla. C'est que les cœurs des croyants doivent être tout le temps attachés et rattachés à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, le cœur qui contient le Coran, c'est un cœur qui tout le temps comprend et renferme la joie, la quiétude et la sérénité, le repos, même dans la difficulté. Le cœur qui contient le Coran, même lorsqu'il est fatigué, même lorsqu'il est dans la difficulté, il est reposé. Pourquoi? Parce qu'il vit avec Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à ses épreuves de ce bas monde, il sait qu'il va s'en décharger. Il sait qu'il va s'en décharger. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala fut questionné: à quand le repos? Il a répondu: le jour où tu vas poser ton premier pied, fil jannah. C'est-à-dire que ce bas monde n'est pas une terre de repos. Malgré ça, le mu'min, le croyant, il atteint ce repos de par l'état de son cœur, de par sa mise en pratique de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il en est ainsi pour tout ce que renferme le Coran, comme aqida sahiha salima, comme ahkam fiqhiyya, comme wasf al-jannah, et ainsi de suite. Tout ce que renferme le Coran, ça amène la quiétude et la tranquillité dans le cœur. Et comme on m'a fait part profiter, le printemps est une renaissance pour les plantes mortes. Une belle phrase comme celle-ci, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle ne provient pas de moi. Naam, je l'ai lu, un frère d'Allah khairan me l'a envoyé. Donc l'aqida et tout ce qui est pris de l'wahi, de la révélation, amène cette tranquillité dans le qalb. Il se peut même qu'une personne pauvre, dans la difficulté, affamée, naam, sorte de chez elle dans cet état. Et dans une assise de science, elle en oublie sa faim. Elle en oublie ses problèmes, elle en oublie ses dettes. Naam. Et c'est pour cela que beaucoup parmi les savants ont appelé leur livre, ont donné comme nom à leur livre, des noms comprenant ce terme-là, Rabi', ou bien des sens qui s'y rapportent. Comme Riyad al-Salihin. Riyad, c'est les jardins. Ou comme Rawdatul Murbi'. Et d'autres titres. On trouve cette notion de jardin, ou bien de verdure, ou bien de printemps, et ainsi de suite. Qui est l'auteur du livre que nous étudions? Cheikh l'Islam. C'est-à-dire Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Ahmed, se prénomme Ahmed. Naam. Une histoire que je vous transmets de cet auteur, rahimahullahu ta'ala. Un jour, sa famille est sortie. Ils ont fait une sortie. Comme font les familles. Naam. Allahu musta'an. Comme le font les familles. C'est-à-dire que l'homme prend son épouse, il prend ses enfants. Naam. Et il sort. N'est-ce pas, Suleyman? Tu baisses la tête toi aussi? On est tous dans le même problème. Donc, ils sont sortis. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, avait des frères. Savez-vous ce qu'il a répondu? Il a dit: non, moi je préfère rester ici. Non, moi je préfère rester ici. Il était fils d'Imashq. Et c'est connu la végétation qu'il y a. Mada fi Sham, la belle verdure et les beaux et nobles paysages. Donc ils sont sortis. Et lui est resté chez lui. Ils sont sortis dans des jardins, des beaux paysages. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, c'était un enfant. Il a dit, moi je préfère rester à la maison. Lorsqu'ils sont rentrés, ses frères lui ont dit, comme disent les frères entre eux lorsqu'ils se taquinent, nous avons vu ça, nous avons mangé ça, et toi tu n'as pas vu cela, et toi tu n'as pas mangé cela. Vous voyez de quoi il s'agit ? Non. Alors Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala leur a répondu, amma ana, na'am, fi ghiyabikum wa nuzhatikum. Il leur a dit, quant à moi, pendant que vous étiez absent, et donc que la maison était vide, calme, pendant votre excursion, qara'tu wa hafidtu al-kitab al-fulani. Il leur a dit, quant à moi, durant votre absence et vos loisirs, j'ai lu tel livre entièrement et je le mémorisais. Vous avez compris ? Yani, pour lui, il n'y avait pas plus grande source de joie, de plaisir, na'am, et de fusha, comment dire en français, de loisir ou source de plaisir, que de lire. Que de lire des livres où il y a qala Allah, qala Rasulullah, qala Sahaba. Ça, c'est la réponse d'un enfant. Ça, c'est la réponse d'un enfant. Il préfère rester chez lui, lire un livre. Il a mémorisé un livre entièrement. Il dit, j'ai lu le livre entièrement et je le mémorisais entièrement. Cela fut sa réponse à ses frères qui disaient, nous avons. Il a dit, quant à moi, j'ai lu tel livre entièrement et je le mémorisais entièrement. Hada raddu. Et parmi les choses qu'il nous faut méditer dans ce texte, ij'al al-Qur'an. Tu demandes à Allah Azza wa Jalla de faire du Qur'an le printemps de ton cœur. On tire ici une grande information. C'est quoi ? C'est que at-tawfiq biyadillah. Même si tu as le Qur'an dans les mains et même si tu le mémorises, seul Allah Azza wa Jalla pourra te donner les faits complets. Combien sont ceux qui mémorisent le Qur'an par cœur ? Mais ils ne font pas salat fil masjid. Non, ils ne font pas salat fil masjid. Combien sont ceux qui ont la langue arabe, mais ils ne lisent pas le Coran, ils ne lisent pas le Sunna? Combien sont ceux qui savent, qui connaissent l'importance des assises de science, mais ils n'y viennent pas? Donc pour réussir à faire un bien, délaisser un mal, il te faut l'assistance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et de cela, une grande faïda que nous tirons également, c'est que l'ilm, rabi'ul mu'min, la science, c'est le printemps du croyant. Et celui à qui Allah Azza wa Jalla n'a pas voulu le bien, il ne ressentira jamais cela. Une assise de science dans laquelle il trouve son bonheur. Tu parles à certaines personnes, elles te prennent pour un fou. Hein ? Elles te prennent pour un fou. On nous disait jadis, mais comment est-ce que tu vas te nourrir ? Mais comment est-ce que tu vas payer ton loyer ? Mais comment est-ce que... Allahu Akbar. Hein ? Un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam pour se plaindre de son frère. Ils étaient deux frères. Un travaillait et l'autre il étudiait la science auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui travaillait est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wassalam de son frère. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu, la'allaka turzaqu bih. Très certainement ta subsistance te vient de sa cause. Na'am, ta subsistance elle te vient de sa cause. Et certains parmi les salafs disaient qu'un homme pieux dans la famille, par sa cause Allah azza wa jalla préserve sa femme, ses enfants et des générations à venir. Allahu Akbar. Un homme pieux dans une famille, par sa cause, Allah Azza wa Jal fait miséricorde à toute sa famille et à une partie de sa descendance sur plusieurs générations. Naam. Et talibul ilm, mubarak. Celui qui étudie et qui applique, il est mubarak. Il a beaucoup de khayr. Partout où il va, les gens tirent profit de lui. Partout où il va, les gens tirent profit de lui, de par son comportement, de par ses paroles, de par son affermissement sur la vérité, de par ses sagesses, de par ses états, وهكذا. Ici, Allah Azza wa Jal ne t'accorde pas cette assistance, pour toi, un peu de ilm sera plus lourd qu'une montagne à porter et à déplacer. Hein? Tu viens dans... Yani certaines personnes vont dans les assises de foussaq, dans les assises de pervers où il y a de l'alcool sur la table, et ils vont dans les... dans les boîtes de nuit, c'est comme ça qu'on dit. Ils vont dans... Yani dans les endroits où il y a l'ikhtilat, la mixité, où on consomme l'alcool et où on fume des drogues, et ainsi de suite. Et ils ne se lassent pas de ces assises-là et ils sont prêts à passer des nuits blanches d'affilée pour ces assises-là. Ça y est. Et aujourd'hui, ils vont dans quoi? Ils vont dans les chichas. Pour se donner bonne conscience. Hein? Ils vont dans les chichas. Ils disent non, mais il y a de la viande halal. Ya salam. Ya salam. Comme il y a de la viande halal, tu peux rester dans un endroit où il y a le muharram. A'udhu billah min al-khuzlan. Voici les réponses de ce qu'Allah Azza wa Jal n'a pas assisté. Au minimum, il dit, je suis un pécheur, je faute. Il reconnaît, yani, sa faiblesse. Amma de se défendre. Naam. T'as pas trouvé un autre endroit que la chicha où il y a le haram, où il y a les mauvaises fréquentations, où les gens perdent leur temps. Celui qui va dans ces endroits-là, wallah, il a perdu. Wallah, il a perdu, même s'il ne boit pas un verre d'eau dans cet endroit-là. Il a perdu. Le simple fait que ton cœur te dirige vers cet endroit-là, ça veut dire que t'es malade, gravement. Naam, t'es malade et gravement. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et regardez le manque de raison jusqu'où ça emmène. Comme il y a des goûts, de ce que j'ai compris, à la pomme, à ceci, à cela, ben les gens essayent de se donner bonne conscience. Alors que c'est pire que la cigarette. Alors que c'est pire que... la cigarette. Même des enfants maintenant fument cela. Je ne sais pas si ça se dit fumer ou autrement. Kafana Allahu sharra al-fitan. Il nous parvient même que des musulmans ouvrent cela et travaillent dans cela. C'est haram, sans aucun doute. C'est haram, sans aucun doute. Quel jugement de travailler dans un bar? Hein? C'est haram, personne ne va diverger sur cela. Mais de travailler dans une chasse, c'est la même chose. C'est la même chose. Ensuite, cette personne-là va se marier, ou elle est amenée à se marier. Elle va ramener du feu pour ses enfants, et pour ses épouses, et pour ses parents, et pour, et pour, et pour. Hein? Allah musta'an. Quant aux assises de science, leur réponse est « ma'indi waqt ». Quant aux assises de science, leur réponse est « je n'ai pas le temps ». Puis tu le trouves dehors, à perdre son temps. Puis tu le trouves dehors à perdre son temps. Quant à celui qui a connu la valeur du ilm, quelle que soit sa situation, quel que soit son état, en voyage, chez lui, où que ce soit, tu le vois qu'il profite, il profite de la science. Puis, wa nura sadri. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire du Qur'an la lumière de ta poitrine. Aydiya'an. Remarquez la différence des termes utilisés. Pour le Coran, pour la poitrine, on a utilisé quoi? Rabi'a. Naam. Pour le cœur plutôt. Naam. On a utilisé quoi? Le printemps. N'est-ce pas? Et ici, pour la poitrine, on a utilisé la lumière. Pourquoi ce changement? Pourquoi ce changement? Celui qui médite le Coran tirera ce qu'ont tiré les savants de cela, et moi je ne fais que vous transmettre. عندما ذكر القلب ذكر الربيع وعندما ذكر الصدر ذكر النور. Pourquoi? لأن القلب في القرآن شبه بماذا؟ بالأرض. La réponse est que dans le Coran, le cœur a été comparé à la terre. N'est-ce pas? Dans le Coran, le cœur a été comparé à la terre. La terre, par moment, on la qualifie de morte, n'est-ce pas? Puis on la qualifie de vivante. Puis on la qualifie de vivante. À quel moment? Suite à quelle chose? La pluie. Naam. De la même façon, le cœur, par moment, il est mort. Par moment, il est malade. Par moment, il est gravement malade. Par moment, il est un petit peu malade. Et selon l'utilisation du Coran pour soigner ce cœur, il revivra. Certains étaient morts et aujourd'hui ils sont plus vivants que nous dans cette assise. Kanu kafirin wal iyad billah. Ils avaient le cœur mort de par le shirk et le politisme qui habitait leur cœur. Thumma arafu l'islam. Puis ils ont connu l'islam. Ils ont connu le tawhid. Ils ont connu Allah azza wa jalla alladhi la ilaha ghayru. Ils ont connu la sunna. Leur cœur s'est rempli de vie. Et ils sont vivants au jour d'aujourd'hui. Pourtant, le cœur est le cœur. Si ce n'est que lorsque le cœur, lorsque la terre tombe sur elle la pluie, elle revit. De la même manière, le cœur, lorsqu'il émit le Coran, il revit. Voici pourquoi est-ce qu'on a fait ressembler dans le Coran le cœur à la terre. L'eau donne la vie à la terre, et le Coran, l'islam ou l'iman donne la vie. De manière plus générale, el-wahi, la révélation, c'est le terme adéquat, donne la vie au cœur. El-wahi, la révélation, illumine le cœur, affecte les membres et amène la droiture sur la langue et sur l'ensemble. Dans Suratu Al-Hadid, le fer, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit cela de la plus belle façon. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat al-Hadid, le verset 16 et la suite, قال الله ألم يأنن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. Donc la traduction des sens. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, c'est-à-dire le Coran, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux? Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leur cœur s'endurcir, et beaucoup d'entre eux sont pervers. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya'lamu anna allaha yuhyi l'arda ba'da mawtiha » Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre une fois morte. « Qad bayyanna lakum l'ayati la'allakum ta'qilun » Certes, nous avons exposé les preuves clairement afin que vous raisonniez. Donc tout comme la terre retrouve la vie par la grâce d'Allah Azza wa Jal suite à la pluie, le cœur du croyant se guérit suite à la méditation de la révélation. Voici l'explication pour Al-Qalb, pour le cœur et la terre. Quant à la poitrine, pour Al-Sadr, on a dit Al-Nur, la lumière. Ça a été comparé à un verre ou un récipient en verre comprenant une lumière ou bien pouvant recevoir une lumière. Pour que cette lumière pénètre, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut que le récipient soit propre. Donc la lumière est la lumière. Mais est-ce qu'elle va pénétrer cette chose-là et éclairer ce qu'il y a de l'autre côté? Oui, si le récipient est propre, mais s'il est terni, rempli de saleté, ça ne sera pas le cas. À ce moment-là, il te faudra laver et nettoyer le récipient pour laisser paraître et transpercer cette lumière. Ainsi, celui qui occupe son cœur par la révélation, il retrouvera la vie du cœur et l'éteint et la splendeur de cette lumière de la révélation. Il faut absolument, il faut retenir cette règle. Comment dissiper les soucis? Il faut occuper le cœur des soucis. il faut occuper le cœur. Par quoi est-ce qu'on va occuper le cœur? Par le tawhid, par le retour vers Allah Azza wa Jal et par le Coran. Par le Coran, le meilleur rappel, la meilleure des paroles. Wa dhahaba hammi. Donc tu demandes à Allah Azza wa Jal de faire du Coran une cause de dissipation de ton anxiété. Comment est-ce qu'ils ont traduit? L'angoisse? La tristesse? Yani, de ce qui te préoccupe. Littéralement, c'est ça, de ce qui te préoccupe. Pour Al-Huzn, on a cité Jala, parce que le Huzn, c'est rattaché au passé. C'est rattaché au passé. Donc on a dit la dissipation. Car c'est une chose qui est ancrée dans le cœur. C'est une chose qui est ancrée dans le cœur. La personne voit une chose, ça lui rappelle tel événement. Elle entend telle voix, ça lui rappelle tel événement. Elle voit un numéro de téléphone, ça lui rappelle tel événement. Elle entend le nom d'un pays, ça lui rappelle tel événement. Cette tristesse, elle revient. Ça peut être un décès, ça peut être une déception, et ainsi de suite. Donc c'est une chose qui est ancrée et qui est lourde dans le cœur. Comment la dissiper? Il faut occuper le cœur afin de dissiper cette cause de trouble et de douleur. Tout comme tu nettoies le récipient avec El Munadhifat, en utilisant par exemple du savon et autre chose. Non. Quelle sera l'attribution? Illa adhaballahu hammahu wa huzna. Ça, c'est la bénédiction de cette dua et c'est le résultat de cette dua. C'est qu'Allah Azza wa Jal remplacera cette tristesse par le secours ou par la joie. Tu ne penseras plus à cette source de tristesse. Tu seras attaché au Coran et préoccupé par la recherche de la science. Ce hadith nous enseigne comment avoir toujours le cœur apaisé, comment avoir toujours la joie dans son cœur. Les gens sont, illa man rahim Allah, plongés, subhanallah, dans les soucis. Sont tristes pour un oui ou pour un non. Et toute chose aussi minime soit-elle, pour eux c'est une source de tristesse et de problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont loin du Coran. Ils sont loin du Coran. Indifférent avec un tel, khalas, il est plus tranquille dans sa salat. Indifférent avec une telle, il est plus tranquille dans sa salat. Wahaka. Donc nous sommes dans une époque où il nous faut mémoriser cette invocation, la comprendre et la prononcer. Cette invocation nous montre donc que la dissipation des soucis et des problèmes se concrétise avec quatre choses. Premièrement, l'i'tiraf bil'ubudiyya. Le fait de savoir que tu es serviteur d'Allah Azza wa Jal et que c'est ton maître, donc le seul qui mérite l'adoration. Deuxièmement, que tu es sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça va t'ouvrir la porte de l'humiliation et de l'avilissement devant Allah tabaraka wa ta'ala. Tu seras dans les meilleures conditions pour l'invoquer. Troisièmement, l'iman ou bil qadar, la foi au destin. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété se passe. Ce qu'il veut a lieu, ce qu'il ne veut pas n'aura pas lieu. Tout est selon le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et personne ne peut repousser son décret. Et dans le hadith, on trouve tout cela. Dans le hadith de Suhaib radiallahu anhu inda muslim. عجباً لأمر ماذا عجباً نعم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزاً ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit: sois motivé dans la recherche de ce qui t'est profitable et cherche l'aide auprès d'Allah et ne te décourage pas. D'accord? Et ne te décourage pas. Tu fais les causes tout en comptant sur Allah. En abandonnant ton affaire à Allah. Et s'il se passe autre que ce que tu voulais, ne dis pas si j'avais fait ceci, cela, il se serait passé ceci ou cela. Mais dis, qadar Allah wa ma sha fa'al. C'est le décret d'Allah et Allah fait ce qu'il veut. C'est le décret d'Allah et Allah fait ce qu'il veut. Tu soignes ta tristesse avec l'iman billah ou l'i'tiraf bil'ubudiyya. Et le dernier point, ou bien, le dernier point, ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi, le fait de connaître Allah Azza wa Jal avec ses noms et ses attributs. Voyez, il y a deux points qui n'en font qu'un, et le dernier c'est an tushghila qalbaka bil Qur'an, c'est d'occuper ton cœur par le Qur'an. Ainsi ton cœur sera rabi'a, et ton sadr nour, et tes tristesses seront dissipées. Certaines personnes, pour conclure, prononcent cette dua. Et ils disent, déjà au moment où tu leur dis, dis cette dua, le prophète sallam nous enseigne ceci et cela. Ils disent, non, moi j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. A'udhu billah min al-khuzlan. Ça c'est une parole d'ignorant. C'est une parole d'ignorant de quelqu'un qui n'a pas une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Et qui a un axe dans l'iman, qui a une faiblesse dans l'iman. Quelle que soit ton affliction, le prophète sallam nous a dit cette parole-là. Wa sadaqa rasulullah. Et comme dans le hadith de celui qui mangeait le miel, Naam, Prophète sallam a reçu la visite d'un homme qui lui a dit, mon frère est malade, il a mal au ventre. Il lui a dit, isqihi asalan, donne-lui à boire du miel. Puis il est revenu, il a dit, il a bu du miel, il est encore malade. Isqihi asalan, redonne-lui du miel. La troisième fois, le Prophète sallam a dit, sadaqa Allah wa kadhaba batnu akhi. Allah a dit la vérité, le ventre de ton frère a menti. Isqihi asalan. Donne-lui à boire du miel. Puis Allah azza wa jalla l'a guéri. Naam. Et ici, celui qui dit que cette dua n'a pas été la cause de la dissipation de sa tristesse, Allah Azza wa Jalla a dit la vérité, son cœur a menti. Naam, mais peut-être qu'il ait un mauvais médecin pour lui-même. Peut-être qu'il y a des causes qui font qu'il n'y a pas l'effet recherché. Peut-être qu'il prononce cette dua, il est distrait. Peut-être qu'il prononce cette dua, il n'y croit pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas un mada tawakkul avec. Ou une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal à ce moment. Quant à celui qui prononce cette dua en connaissant le sens, en ayant confiance en Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal va dissiper ses peines. Ce hadith rapporté par l'imam Ahmad ibn Hibban, il est authentique comme l'a dit l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ainsi nous avons fini ce chapitre. Cette dua, lorsqu'un homme l'a entendu, ou Abdullah ibn Saoud, il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, n'allons-nous pas mémoriser cette dua au message d'Allah? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il convient à toute personne ayant entendu cette invocation de la mémoriser. Vous avez compris? Toute personne qui entend ce hadith, il doit la mémoriser. Si je ne confonds pas entre deux histoires, c'est ce hadith-là. Wa sallillahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Prenez vos téléphones.